La table, c'est mieux que la chaire parce qu'il y a plus de place. C'est un avantage. Alors, ce jeudi, c'était l'Ascension. Hein? Et puis, alors c'est de ça que nous allons parler. Mais là, je vous invite à regarder d'abord un reflet de l'Ancien Testament avec moi. Un texte qui est en fait un reflet à l'avance de l'Ascension de Jésus. Il s'agit de l'Ascension d'Élie. Élie, hein, c'est une des deux grandes figures de l'Ancien Testament, des deux grandes figures de Jésus de l'Ancien Testament. D'abord, il y a eu Moïse. Hein, Moïse, c'était le symbole de la loi. Lui, il est comme un reflet à l'avance de Jésus quand il dit « Je suis la parole de Dieu ». Et puis ensuite, il y a Élie. Alors Élie, il symbolise les prophètes. Et lui, c'est comme un reflet à l'avance de Jésus comme prophète. En fait, ça veut dire comme guide, avec grand G. Ou bien, par exemple, quand Jésus dit « Je suis le bon berger ». En fait, Élie, c'était comme un bon berger à l'avance. Je vous rappelle d'ailleurs que dans l'histoire de la Transfiguration, hein, c'est Élie et Moïse qui discutaient avec Jésus. Alors maintenant, l'ascension d'Élie, eh ben, c'est une préfiguration de l'ascension de Jésus, un peu comme une parabole, hein, qui va nous permettre de comprendre avec plus de profondeur le sens de l'ascension de Jésus pour nous. C'est au deuxième livre des Rois, au chapitre 2. Alors, je lis au verset 1. « Voici comment le Seigneur fit monter Élie au ciel dans un tourbillon de vent. Élie et Élisée étaient partis de Gilgal. » Alors, il y a Élie, le prophète, et puis Élisée, son disciple. Et ici, regardez, le Seigneur fit monter Élie au ciel. Il s'agit bien d'une ascension. D'ailleurs, dans la version grecque de l'Ancien Testament, hein, la Septante, qui fait autorité aussi, eh bien, le verbe utilisé ici pour l'ascension d'Élie, c'est pile le même verbe qui est repris pour l'ascension de Jésus dans les actes des apôtres. En fait, quand les anges en parlent. Ça montre le lien entre ces deux textes. Et effectivement, cette histoire de l'ascension d'Élie, elle éclaire notre compréhension de l'ascension de Jésus. Et là, je vous invite à vous arrêter avec moi en fait, surtout sur Élisée. Parce que, au fond, si Élie est une image de Jésus, eh bien, Élisée, c'est une image de nous. Et le rapport ici entre Élisée et Élie, eh bien, c'est le même rapport qu'entre les disciples et Jésus, le jour de l'Ascension. Alors donc, Élisée chemine avec Élie. Hein, quelque temps avant, Élie avait posé sur lui son propre manteau. Et pour Élisée, c'était un signe. Ça veut dire que Élisée, il sait déjà maintenant qu'il a été choisi pour être le successeur d'Élie. Ça sera pour plus tard. Mais maintenant, il continue à l'accompagner. Ils cheminent ensemble. Je lis au verset 2. Les membres... Ah non, pardon. Élie dit à Élisée, Reste ici. Le Seigneur m'envoie à Bethel. » Mais Élisée lui répondit, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant et que tu es vivant, je te l'affirme, je ne te quitterai pas. » Et ils se rendirent ensemble à Bethel. En fait, on s'en rendra compte plus tard, hein, tous les deux, ils savent bien que le départ d'Élie est tout proche. Et ici, c'est un peu un début de séparation. En fait, Élie prend congé de Élisée. Mais Élisée, lui, il n'arrive pas à se séparer de lui. Alors, ils continuent ensemble jusqu'à Bethel. Et puis, le verset 3. Les membres du groupe de prophètes qui habitent Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu qu'aujourd'hui, le Seigneur va enlever ton maître dans les cieux ?»« Oui, je le sais aussi, » répondit Élisée, « taisez-vous. » Donc, ils arrivent à Bethel. Et là, il y a en quelque sorte, pour Élisée, comme une confirmation divine par d'autres prophètes que, effectivement, Élie est sur le point de le quitter. Alors voilà pourquoi Élisée dit « taisez-vous ». Hein? En fait, il est triste. Et c'est fort. Regardez le verset 4. Élie dit de nouveau à Jéricho, « Reste ici, Élisée. Le Seigneur m'envoie à Jéricho. » Mais Élisée lui répondit, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant et que tu es vivant, je te l'affirme, je ne te quitterai pas. » Ils se rendirent ensemble à Jéricho. Alors de nouveau, Élie prend congé de Élisée. Et de nouveau, Élisée n'arrive pas à se séparer de lui. Et de nouveau, ils continuent ensemble jusqu'à Jéricho. Et verset 5. Les membres du groupe de prophètes qui habitent à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître dans les cieux ?»« Oui, je le sais aussi, » répondit Élisée. « Taisez-vous. » Arrivé à Jéricho, il y a de nouveau pour Élisée une confirmation par les prophètes de l'endroit de l'imminence du départ d'Élie. Et de nouveau, Élisée dit « taisez-vous ». En fait, dans les versets 2 et 3 d'une part, et puis les versets 4 et 5 d'autre part, Élisée et les groupes de prophètes, ils prononcent les mêmes phrases. Hein? C'est une répétition. Et ça appuie bien cette tristesse d'Élisée. Mais regardons la suite. D'abord le verset 6. Je lis. Élie dit encore à Élisée, « Reste ici. Le Seigneur m'envoie au bord du Jourdain. » Élisée lui répondit, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant et que tu es vivant, je te l'affirme, je ne te quitterai pas. » Ils se mirent en route ensemble. Au début, une troisième fois la même chose. Élie prend congé d'Élisée et Élisée n'arrive pas à se séparer de lui. Mais écoutez la suite. Verset 7. 50 membres du groupe de prophètes les suivirent, mais ils s'arrêtèrent à distance, tandis que Élie et Élisée se tenaient sur la rive du Jourdain. Les prophètes de l'endroit aussi, ils savent que Élie va partir, mais ils ne disent rien. et il laisse Élie et Élisée continuer seuls. Intéressant. Dans cette histoire, il y a eu trois groupes de prophètes. Le premier, ils ont rappelé à Élisée le départ d'Élie. Et là, en fait, c'était Dieu lui-même qui remettait constamment cette séparation imminente dans la conscience d'Élisée. Mais cette fois, au bord du Jourdain, Dieu ne lui dit rien. En fait, c'est le début d'une nouvelle étape. Regardons le verset 8. Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux du fleuve qui se séparèrent de part et d'autre. Ils traversèrent tous deux à pied sec. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que, au début d'une nouvelle étape, le Seigneur ouvre un chemin à travers l'eau. Pensez au passage de la mer Rouge. C'est dans Exode 14. Ou bien alors, pensez à cette fois où le Seigneur a coupé en deux les eaux du Jourdain devant Israël pour lui permettre d'entrer en Canaan. Ça, c'est dans Josué 4. Eh bien, ici aussi, c'est le début d'une étape pour Élisée. Quand le Seigneur a refermé le Jourdain derrière eux, il est tout seul avec Élie. Et c'est le sommet de sa relation avec lui. Mais, très intéressant, cette totale relation avec Élie, cette totale relation, en fait, avec le Seigneur, eh bien, ce n'est pas le point final. Cette totale relation avec le Seigneur, elle va amener Élisée plus loin. Je lis au verset 9. Quand ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu désires que je fasse pour toi, avant que le Seigneur m'enlève d'auprès de toi. » Élisée répondit, « Que je reçoive une double part de ton esprit prophétique. » Ici, Élie veut faire quelque chose pour Élisée. Mais ce n'est pas n'importe quoi, bien sûr. C'est de prophète à prophète. Genre, le grand prophète veut donner quelque chose au prophète en second qui va prendre sa place. C'est-à-dire, en fait, Élie demande à Élisée ce qu'il voudrait recevoir pour son futur ministère. Et c'est bien comme ça que Élisée le comprend. Quand il demande une double part qui va en esprit, il ne demande pas une grande puissance qui va lui permettre de s'asseoir confortablement sur tous les autres. Non, il demande une force de service pour le Seigneur et au milieu de son peuple. D'ailleurs, regardez, on dit bien « esprit prophétique ». Je lis au verset 10. « Tu demandes une chose difficile, reprit Élie. Si tu me vois au moment où le Seigneur me prendra d'auprès de toi, ta demande se réalisera. Si tu ne me vois pas, elle ne se réalisera pas. » Élisée demande quelque chose de grand, une chose que seul le Seigneur peut accorder. Mais ici, à travers Élie, le Seigneur accorde à Élisée un signe. Un signe qui va lui dire, maintenant, si sa prière, si sa demande va être réalisée, plus tard, avec le temps. Et ce signe, c'est, si tu vois Élisée partir, alors ta demande va se réaliser. Et regardez le verset 11. Pendant qu'ils marchaient et s'entretenaient, un char de feu avec des chevaux de feu les sépara. Et aussitôt, Élie monta dans les cieux dans un tourbillon de vent. Et verset 12. Lorsque Élisée vit cela, il se mit à crier, « mon père, tu valais tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. » Quand il ne vit plus Élie, il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Élisée a vu Élie partir. Alors maintenant, il sait que le Seigneur va répondre à sa prière. C'est-à-dire, il sait que le Seigneur va souffler son esprit à travers lui, hein, dans son ministère de prophète, comme il l'a fait pour Élie, et même plus. Et puis verset 13, ensuite, il ramassa le manteau d'Élie qui était tombé de ses épaules, et il retourna sur la rive du Jourdain où il s'arrêta. Alors, au moment d'entrer dans son ministère, hein, Élisée commence par mettre les habits du grand prophète. Et effectivement, si on regarde dans la Bible, hein, Élisée a eu, si on peut dire, un ministère de très grands prophètes. Maintenant, tout ce que Élisée a vécu ici dans cette histoire de séparation, hein, d'avec Élie, eh ben, c'était une préfiguration de ce que les disciples ont vécu 800 ans plus tard dans leur séparation d'avec Jésus. Et du coup, c'est comme une illumination qui nous permet à nous de mieux comprendre le message de l'ascension de Jésus. Hein? Après avoir traversé le Jourdain, Élie est resté seul avec Élisée. Et à ce moment, Élisée a été consolé de la séparation. Et puis aussi, il a été engagé dans son ministère. Et de même, après la résurrection, hein, Jésus il a passé 40 jours avec les disciples. Je lis un. Et à la fin de ces 40 jours, voilà ce qu'il leur a dit. Je lis acte 1 au verset 8. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités du monde. Oh non, pardon, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors réfléchissons. D'abord, Élisée avait demandé une force divine, hein, pour accomplir son ministère. Et ici, Jésus dit aux disciples, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit afin d'accomplir votre ministère. Et votre ministère, eh bien, ça sera celui de témoin. Hein, vous serez mes témoins. Et puis deux, hein, pour Élisée, le don de cette force, il était lié au départ d'Élie. Et pour les disciples, pareillement, la venue du Saint-Esprit sur eux, elle est liée au départ de Jésus. Et surtout, trois, pour Élisée, le don de cette force était lié au fait qu'il puisse voir Élie partir. Hein? Si tu me vois, tu verras ta demande se réaliser. Eh bien, écoutez le verset 9. Après avoir dit cela, il, donc Jésus, fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Autrement dit, les disciples ont vu Jésus partir. Le texte de la Bible relève bien ce détail pour rappeler qu'ici les disciples sont par rapport à Jésus dans la même situation que Élisée par rapport à Élie. Et que du coup, promesse divine, ils vont entrer dans leur ministère comme Élisée et entrer dans le sien. Alors, lui, Élisée, il s'est recouvert du manteau d'Élie, vous vous souvenez. Et ça, c'était la marque extérieure de l'esprit prophétique que le Seigneur mettait en lui. Et eux, les disciples, ils vont être remplis du Saint-Esprit. Et là, la marque extérieure, ça sera les langues de feu qui vont les recouvrir à la Pentecôte, 10 jours plus tard. Alors là, il y a un appel très fort pour nous. Nous aussi, nous appartenons à partir au groupe des disciples qui ont vu Jésus partir. Même si ce n'est pas nous personnellement qui avons été les témoins visuels directs, nous faisons partie du groupe. Et ainsi, nous faisons partie de ce groupe auquel Jésus a dit « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. » Et du coup, comme chrétiens aujourd'hui, dans notre cheminement, nous sommes nous aussi et toujours à nouveau en attente de cette puissance de témoignage. Je reviens au texte, au verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent. Ici, Dieu lui-même intervient. Et il intervient pour affermir et pour repréciser l'appel adressé aux disciples. Parce que, n'est-ce pas, ces deux hommes en vêtements blancs, ce sont des anges envoyés directement par Dieu. Or, justement, qu'est-ce qu'ils disent? Vous, Galiléens, verset 11, pardon, désolé. Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. À propos, c'est ici, quand il dit « ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous », c'est pile le même verbe que pour l'ascension d'Élie. Alors, très intéressant. Ici, Dieu montre aux disciples que désormais, ils se trouvent dans un temps nouveau. C'est une nouvelle portion de l'histoire du monde. C'est celle qui se trouve entre le départ de Jésus et son retour. Et cette portion de l'histoire du monde, c'est celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Du coup, dans cette histoire de l'ascension de Jésus, il y a un enseignement pour nous. Jésus est venu dans le monde pour nous libérer de la condamnation. Nous avons confiance en lui et nous sommes maintenant en attente de son retour, selon sa promesse. Mais pour nous, ce temps d'attente, ça doit être Jésus, ne doit pas être seulement un temps d'attente. Ça doit être le temps de recevoir et de re-recevoir sans arrêt cette puissance de témoignage que le Seigneur a promise ici à ses disciples. Alors, il ne faut pas regretter le départ de Jésus. Hein, le départ de Jésus, c'est la preuve que le Saint-Esprit est venu parmi nous. Jésus est parti et le Saint-Esprit est venu. Mais mettons-nous en attente du renouvellement constant de cette force de témoignage que le Seigneur nous promet dans sa parole. Et demandons-la, comme Élisée l'a fait pour lui. Alors, demandons au Seigneur de renouveler constamment en nous cette force de témoignage par son esprit. Alors, je conclue. Nous avons parlé de l'ascension d'Élie. Élisée, son disciple, était avec lui. Il savait qu'Élie allait le quitter et il était triste, mais le Seigneur lui a fait un double cadeau qui l'a bien consolé. D'abord, le Seigneur lui a donné un moment privé avec Élie, hein, de l'autre côté du Jourdain. Et puis ensuite, il lui a promis par un signe qu'il allait mettre sur lui son esprit prophétique pour le soutenir dans son ministère. Et nous avons vu, hein, ce que ce signe était. Élisée a pu voir Élie partir. Alors dès lors, il savait qu'il allait recevoir l'esprit du Seigneur. Et puis nous avons ensuite montré que cette histoire de l'ascension d'Élie, elle illumine notre compréhension de l'ascension de Jésus. Parce que les disciples, par rapport à Jésus, ils sont comme Élisée par rapport à Élie. Avant son départ, Élie a passé un moment en privé avec Élisée. De même, avant son ascension, Jésus a passé 40 jours en privé avec les disciples. Et surtout, comme Élisée a pu voir Élie partir, de même les disciples ont pu voir Jésus partir. Du coup, maintenant les disciples peuvent d'autant plus croire à la promesse que Jésus a faite quand il a dit: vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et cette promesse, elle va se réaliser 10 jours plus tard à la Pentecôte. Pardon. C'est pas vrai. Aujourd'hui. Voilà. C'est ça le message de l'ascension pour nous, aujourd'hui. Jésus est monté auprès de Dieu. Et ça, c'est le signe, c'est même la preuve que le Saint-Esprit est descendu parmi nous. Alors nous aussi, nous sommes appelés à atteindre l'Esprit du Seigneur et même à le lui demander. Et à le lui demander en abondance, comme Élisée. Et pas seulement une fois, mais prier régulièrement que le Seigneur renouvelle en nous son Esprit pour faire de nous ses témoins. Nous sommes aujourd'hui dans le temps entre le départ de Jésus et son retour. Et ça, c'est le temps du témoignage. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que par ton esprit, Seigneur, tu nous visites. Et Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu renouvelles ton esprit, tu renouvelles le souffle de ton esprit à travers nous et que tu nous refortifies, Seigneur, toujours dans le témoignage pour toi, dans le ministère dans lequel tu nous envoies. Amen.